C'est le journal d'Alexis Morel. Bonjour Alexis.
Bonjour Amélie, bonjour à tous.
À la une ce matin, le pire des scénarios à Tokyo. Il n'y aura pas de troisième médaille d'or olympique pour Teddy Riner, battu dès les quarts de finale ce matin. Les autres titres, Alexis.
L'île de la Réunion reconfinée à son tour après la Martinique. Explosion épidémique outre-mer. Nous serons à l'hôpital de Fort-de-France, déjà saturé. On vous expliquera aussi pourquoi les prix du gaz ne cessent d'augmenter. Plus 5% encore à partir de dimanche. Et puis à Hollywood, Scarlett Johansson craint pour ses émoluments. Elle attaque les studios Disney en justice.
Un très grand monsieur du jazz bientôt sur la scène de Marciac. Michel Portal, 85 ans, clarinettiste, plein de joie, nous fait le plaisir de venir souffler quelques notes ramenées de ses voyages dans notre studio. Ce sera à 7h50. Et puis à 8h20, on parlera relance, consommation, aide aux entreprises en difficulté à cause de la pandémie. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, sera notre invité. Il dialoguera avec vous au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter.
France Inter.
Depuis 5 ans, il n'avait que cet objectif dans le viseur. Entrer encore un peu plus dans la légende, au pays qui a inventé le judo. Eh bien, c'est raté. Énorme désillusion ce matin pour Teddy Riner. Il n'y aura pas de troisième médaille d'or olympique. Bonjour Stéphanie Mora.
Bonjour.
La star française du judo est donc battue dès les quarts de finale aux Jeux Olympiques. On a du mal à le croire ce matin.
Ouais, prise au piège Teddy Riner dans le Golden Score pour contrer une attaque du Russe Tamerlan Bachaïev, 30 cm plus petit que lui. Le colosse de 2,03 m l'empoigne par le dos et tente de l'attirer à lui. Mais hélas, c'est Riner qui perd l'équilibre et Bachaïev poursuit son attaque et le plaque au sol. Le numéro 1 mondial obtient ainsi un Wazahari, le plus petit écart qui suffit dans le temps additionnel pour avoir combat gagné. Riner se retrouve au repêchage pour espérer disputer le bronze. C'est une colossale désillusion effectivement.
Et on s'interroge, est-ce qu'il était vraiment dans les meilleures conditions Teddy Riner? On a beaucoup parlé ces derniers temps de sa blessure au genou.
Oui, en fait, il faut regarder ses premiers combats de la journée en ayant en tête que Riner n'avait plus fait de compétition depuis les Masters de Doha en janvier. Mais malgré cela, le Guadeloupéen a fait preuve de beaucoup de maîtrise. Hippon en 1 minute 05 pour son premier combat. Victoire dans le deuxième. Au bout du temps réglementaire, Riner a géré sans s'affoler. Son classement faisait qu'il avait un combat de plus que les favoris. Hein, donc il a maîtrisé, tout comme le judo pratiqué, moins fougueux, c'est vrai, plus en maturité, mais efficace. Mobile sur le tatami, pas essoufflé. Il a pas donné l'impression de souffrir ou d'avoir un problème physique. Le problème, c'est qu'il a commis cette toute petite erreur et qu'il l'a payé cash. Désormais, donc, il lui reste 4 heures pour se remobiliser et gagner son combat de repêchage contre le numéro 5 mondial, Rafael Silva, double médaillé de bronze à Londres et à Rio.
Et on suivra cela avec vous, Stéphanie Mora, merci. Et décidément, très mauvais karma pour les Français cette nuit à Tokyo. Aucune médaille non plus en BMX, alors qu'ils étaient au total 4 Français engagés en finale. Et en escrime, grosse contre-performance aussi des épéistes tricolores, champions olympiques en titre, éliminés dès les quarts de finale. À suivre aujourd'hui le début de l'athlétisme au stade olympique de Tokyo.
À la une également ce matin, la Réunion sous la menace d'un emballement épidémique jamais vu depuis le début de la crise Covid.
Alerte lancée par le préfet hier après-midi. Alors la Réunion se reconfine à son tour dès ce week-end. Beaucoup de variants Delta, très peu de vaccinés. Le dangereux cocktail est le même qu'en Martinique où le retour du confinement avait déjà été annoncé. À Fort-de-France, le CHU est au bord de la rupture. Les 32 lits Covid en réanimation sont tous occupés et par des patients de plus en plus jeunes. Parmi eux, Isabelle, 48 ans, qu'a rencontré Thibault Lefebvre.
Le son de l'oxygène à haut débit envoyé par un tube dans les poumons d'Isabelle. Cette patiente, admise il y a 6 jours à l'hôpital, reçoit chaque minute 70 litres d'air. C'est la limite haute avant une éventuelle intubation.
Aujourd'hui, on m'a dit que mon état était dans un plateau stationnaire. La thérapie, c'est rester au maximum sur le ventre. Donc, je suis restée 2 jours plein sur le ventre. Les médecins sont encourageants.
Encourageant, mais pas vraiment confiant, car à n'importe quel moment, son état peut se détériorer. Comme les 32 patients Covid placés hier en réanimation, Isabelle n'a pas été vaccinée.
Je ne suis pas contre, simplement. On entend tellement de choses maintenant. Les choses se sont passées différemment. Aujourd'hui, c'est moi qui me retrouve dans cet état. Je ferai ce qu'il faut en termes de vaccination.
Plus de la moitié des patients hospitalisés hier en réanimation ont, comme Isabelle, moins de 60 ans. Un tiers ont moins de 30 ans et le plus jeune a tout juste 19 ans.
Thibault Lefebvre, envoyé spécial de France Inter en Martinique, et pour soulager l'hôpital de Fort-de-France, 3 premiers patients doivent être transférés vers la métropole dès ce week-end. Au niveau national, la barre du millier de patients en réanimation est désormais franchie, mais 62% des Français ont reçu au moins une dose de vaccin. C'est maintenant plus qu'aux États-Unis, qui étaient pourtant le bon élève au début de la campagne vaccinale. Le nombre d'injections se tasse outre-Atlantique. Alors Joe Biden tente de les relancer avec une quasi-obligation pour les millions d'employés fédéraux. Désormais, annonce le président américain, ils devront soit être vaccinés, soit porter le masque en permanence et se faire tester au moins une fois par semaine. Puis en Algérie, s'il vous plaît, essayez de parler un peu moins de la crise sanitaire. C'est le message que vient de passer l'autorité algérienne de l'audiovisuel aux médias locaux. Elle leur demande d'éviter de se concentrer excessivement sur les nouvelles négatives et les histoires tragiques liées au Covid, au moment où le pays connaît lui aussi une flambée de cas et une pénurie d'oxygène.
Et avec l'explosion du variant Delta, c'est tout l'été qui est chamboulé.
Dans les aéroports, le week-end de chassé-croisés s'annonce bien plus calme qu'en temps normal. 140 000 passagers attendus demain à Charles de Gaulle. C'est quasiment deux fois moins qu'avant la pandémie. Mais ce n'est pas pour cela que vous attendrez moins longtemps dans les terminaux. Bien au contraire, les files d'attente sont considérablement allongées par les contrôles liés à la crise sanitaire. Alors, un peu en urgence, les gestionnaires d'aéroports cherchent quelques solutions, Sébastien Sabiron.
40 secondes en moyenne pour passer la frontière avant la crise sanitaire, 2 à 4 minutes par passager aujourd'hui, autant de paperasse qu'il y a de situations différentes. Marc Walla, directeur de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle.
Les documents demandés, si vous êtes vacciné ou non vacciné, ressortissant de l'Union européenne ou non, vous arrivez à peu près à 24 cas différents de contrôle des documents pour nos amis de la police aux frontières.
Et si le trafic revenait à 75% de ce qu'il était avant la pandémie, l'Association internationale du trafic aérien estime que le temps d'attente moyen friserait les 5 heures. Son porte-parole, Chris Gotter.
Dans de nombreux lieux, les autorités continuent d'exiger des formulaires papier. Cela ralentit tout. Il est important de permettre aux gens d'avoir non seulement un passeport numérique, mais également leur test Covid, leur certificat de vaccination dans une seule application numérique.
Dans cette perspective, Air France vient de lancer Ready to Fly, un service pour l'instant limité à quelques destinations. Marc Walla, directeur de Roissy.
Air France vérifie en amont du vol que le passager a bien fourni l'ensemble des documents sanitaires, et ce qui permet ensuite à la police aux frontières de se consacrer uniquement au contrôle à l'immigration.
Quant à une appli smartphone qui centraliserait passeport, données biométriques et sanitaires, plusieurs acteurs y travaillent, mais se heurtent à la frilosité des États sensibles à la protection des données.
Les explications de Sébastien Sabiron. Et sur les routes, en revanche, ça s'annonce très chargé ce week-end. Orange aujourd'hui, mais noir demain dans le sens des départs. Ces derniers jours, vous avez peut-être sursauté à la lecture de votre facture de gaz de plus en plus salée. Et ce n'est pas terminé malheureusement, les tarifs réglementés augmentent de plus de 5% au 1er août, dimanche donc, alors qu'ils avaient déjà bondi de 10% en juillet. Comment l'expliquer, Delphine Simon ?
Depuis le début de l'année, la facture de gaz pour les ménages n'arrête pas de grimper. Plus 26%, 294 euros sur un an, c'est presque inédit. La reprise économique mondiale en est la cause. La demande est forte en Asie, elle dope les prix du gaz sur les marchés. Plus 28% sur un trimestre. Les températures sont restées basses au printemps. Il y a des opérations de maintenance en mer du Nord qui limitent les importations. Enfin, de plus en plus, le gaz remplace le charbon pour fabriquer du courant. Pour éviter ces hausses consécutives de prix, on peut changer d'offre et de fournisseur, rappelle Frédéric Ferriot, la directrice du médiateur de l'énergie.
Aujourd'hui, donc, on propose 70 offres alternatives aux tarifs réglementés. Certaines d'entre elles peuvent permettre d'économiser jusqu'à 15%. C'est de l'ordre de 250 euros par an. Les tarifs réglementés seront supprimés en juillet 2023. Aujourd'hui, il est déjà plus possible d'y souscrire. Donc là, dans le contexte actuel d'augmentation depuis plusieurs mois, bah pourquoi pas dès maintenant comparer les offres de marché et d'envisager cet abandon du tarif réglementé.
Les tarifs réglementés du gaz concernent toujours 3 millions de foyers en France.
Et pour comparer gratuitement les offres des fournisseurs de gaz, rendez-vous sur le site du médiateur de l'énergie, comparateur-offre au pluriel.energie-info.fr. Une voiture qui percute violemment la terrasse d'un bar. Un mort et 6 blessés hier soir dans le 17e arrondissement de Paris. Il s'agit a priori d'un accident, pas d'un acte volontaire. Le chauffeur du véhicule a pris la fuite. Des centaines de tentes sur la très chic place des Vosges, toujours à Paris. 400 sans-abri, dont des migrants, des familles avec enfants aussi, y ont passé la nuit. À l'origine de cette action coup de poing, le collectif Réquisition. Il demande une meilleure application de la loi sur les réquisitions de logements vides, notamment en Île-de-France. Les premières investigations de la police judiciaire confirment les révélations sur Pegasus. France Inter vous apprenait notamment la semaine dernière que des journalistes français avaient été espionnés par le Maroc avec ce logiciel qui s'infiltre dans les téléphones. Eh bien, les policiers ont analysé les téléphones en question, notamment d'un journaliste de France 24, mais aussi celui d'Edoui Plenel à Mediapart. Les analyses attestent qu'ils étaient bien ciblés. Concernant maintenant l'Élysée et les membres du gouvernement, les enquêteurs refusent à ce stade de communiquer leurs résultats.
Et puis elle est l'une des stars les mieux payées d'Hollywood.
Scarlett Johansson engage un bras de fer avec Disney. L'actrice poursuit les studios en justice car ils ont décidé de sortir le film Black Widow sur leur plateforme de streaming Disney+, en même temps qu'au cinéma. Alors vous me direz, c'est de l'exposition en plus, peut-être, oui, mais pour Scarlett Johansson, c'est surtout de l'argent en moins, Loïc Piala.
Le week-end de sa sortie aux États-Unis, Black Widow a récolté 80 millions de dollars au cinéma et 60 millions sur Disney+. Le film se loue pour 30 dollars sur la plateforme et contrairement aux salles, Disney n'a pas à partager les recettes avec les exploitants. Forcément, la stratégie ne plaît pas à ces mêmes exploitants, mais elle n'a pas non plus enchanté Scarlett Johansson, l'héroïne du film. Comme beaucoup d'autres vedettes à Hollywood, le contrat de l'actrice inclut un pourcentage sur les résultats au box-office. La pratique permet de réduire le budget des grosses productions, sauf qu'elle ne tient pas compte de la montée en puissance du streaming, un phénomène récent, accéléré par la pandémie. Dans le cas de Johansson, le manque à gagner s'élèverait à 50 millions de dollars, selon le Wall Street Journal. Warner Bros. A également opté pour des sorties parallèles en salle et sur sa plateforme HBO Max en 2021. Mais le studio a rapidement renégocié les contrats de ses principales stars et versé des dizaines de millions de dollars en compensation. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Et ce matin, Disney réagit en parlant d'une action triste et regrettable. Voilà, c'est peut-être la fin d'une histoire de 10 ans entre Disney, les studios Marvel et Johansson. Bon, on l'espère pas quand même.
Ben oui, on va croiser les doigts quand même. Merci beaucoup.
Tout ça pour une affaire de gros sous.
Absolument, c'est pas très conte de fées, pas très Disney tout ça. Merci beaucoup Alexis Morel. On passe très vite aux 80 secondes.